La Méridienne.
Il est l'heure de retrouver Jean-François pour une rubrique Nuances du Monde. Bonjour.
Salut Mathieu.
Et merci d'être venu nous voir pour nous parler aujourd'hui dans cette rubrique Nuances du Monde de quoi?
Eh bien de Salvador Allende et de sa chute le 11 septembre 1973. Parce que Salvador Allende, au Chili, a tenté de faire une expérience particulière, de mettre en place du socialisme. Et c'est un exemple assez marquant de l'histoire politique latino-américaine en raison de son engagement donc pour ce socialisme et de ses réformes, et bien sûr de la fin tragique de son mandat dont on parlera.
Ok, alors pour bien rentrer dans le sujet, est-ce que tu peux nous présenter le contexte au Chili dans les années 60 et de son arrivée au pouvoir?
Ouais, alors dans les années 60, le Chili est un pays vraiment marqué par une profonde division politique entre d'un côté la droite conservatrice, le centre chrétien-démocrate et la gauche socialiste et communiste. Cette division, finalement, est le reflet de tensions sociales importantes, notamment sur les questions d'inégalité économique, de réformes agraires et de l'influence des États-Unis sur l'économie chilienne. En effet, comme dans de nombreux pays latino-américains, à l'époque, la majorité des richesses du Chili étaient concentrées dans les mains d'une petite élite, tandis qu'une grande partie de la population, notamment les paysans, les ouvriers, vivaient dans la pauvreté. Cela créait une forte demande pour les réformes sociales et économiques. Dans ce contexte, les idées socialistes et marxistes gagnent en popularité, en particulier parmi les ouvriers, les étudiants et les intellectuels. Le Parti socialiste et le Parti communiste, bien que marginalisés par les élites, parviennent à mobiliser une base populaire solide.
Bon, et ce Salvador Allende, alors, c'était qui?
Alors, Salvador Allende, c'est un médecin de profession, issu d'une riche famille bourgeoise et installée au Chili. Et il est aussi membre fondateur du Parti socialiste chilien en 1933. Il a occupé plusieurs postes au sein du gouvernement, notamment celui de ministre de la Santé dans les années 30. Et avant son succès en 1970, il était déjà candidat à la présidence à 3 reprises. D'ailleurs, en 1958, il échoue de très peu contre le candidat conservateur Jorge Alessandri, ce qui démontre qu'il jouissait déjà d'un soutien populaire assez significatif.
Et comment est-ce qu'il va réussir à transformer l'essai alors lors de l'élection présidentielle de 1970?
Alors pour l'élection présidentielle de 1970, Salvador Allende a l'intelligence de s'allier à une large coalition de gauche appelée Unité Populaire, qui comprend donc son parti socialiste, mais aussi le parti communiste, plusieurs autres partis de gauche. Cette coalition propose un programme radical de réformes économiques et sociales, avec pour objectif de réaliser une transition pacifique vers le socialisme, et tout cela par des moyens démocratiques, ce qui n'avait jamais été fait encore à ce moment-là dans le territoire d'Amérique latine. Alors le programme de l'Unité Populaire prévoit des réformes agraires, la nationalisation des industries clés, notamment les mines de cuivre qui appartenaient beaucoup à l'étranger, au contrôle étranger. Et puis ils veulent aussi faire des mesures de redistribution des richesses, améliorer les conditions de vie des travailleurs et des paysans. Allende promet aussi une amélioration des droits sociaux, notamment en matière d'éducation et de santé. Mais tout n'est pas joué par avance parce que son élection est très serrée. Ainsi, le 4 septembre 1970, il arrive en tête entre les 3 candidats avec 36,6% des suffrages. Mais il domine vraiment de justesse ses 2 rivaux, Jorge Alessandri, qui représente la droite conservatrice, et Radomiro Tomic, qui est le candidat du centre soutenu par le Parti démocrate chrétien. Okay. Alors comme aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, et conformément à ce que dit la constitution chilienne, c'est le Congrès qui doit décider du vainqueur parmi les 2 candidats arrivant en tête. Bien que la droite tente d'empêcher Allende d'accéder à la présidence, notamment avec l'appui de certains secteurs militaires et des États-Unis, on en reparlera du rôle des États-Unis, le candidat centriste Radomiro Tomic et ses partisans vont soutenir la victoire d'Allende et le Congrès va donc confirmer son élection en octobre 1970. Allende devient ainsi le premier président marxiste élu démocratiquement en Amérique latine.
Donc il devient président du Chili, mais si je ne dis pas de bêtises, en 70, on est en pleine guerre froide.
Ouais, effectivement. Ouais.
Comment est-ce que les États-Unis vivent cette élection d'un socialiste sur le continent américain?
Eh ben, ils sont profondément inquiets, les Américains.
J'imagine.
Donc à ce moment-là, on est sous l'administration du président Richard Nixon et de son conseiller assez fameux Henry Kissinger, qui considère Allende comme une menace pour les intérêts américains en Amérique latine. Et il craint que le Chili ne devienne un autre Cuba. Depuis 1959, Cuba est passé sous un régime socialiste marxiste avec Fidel Castro. Et ainsi, dès avant l'élection d'Allende, la CIA va chercher à mener des actions pour influencer les résultats en faveur de la droite. Mmh. Après la victoire d'Allende, les États-Unis vont continuer de soutenir activement l'opposition chilienne en menant une campagne de déstabilisation politique et économique contre le gouvernement d'Allende. Washington impose également des sanctions économiques au Chili et encourage le secteur privé chilien à saboter l'économie.
Ah oui, complètement. Ouais. D'accord. Et donc, pour revenir à Allende, quelles réformes est-ce qu'il va mettre en place ?
Alors, il va quand même essayer de mettre en place ses réformes avec son gouvernement de l'unité populaire. Et il va chercher à construire donc un État socialiste sans donc recourir à une révolution armée, mais plutôt donc par des réformes démocratiques qui vont s'appuyer sur la constitution chilienne et le peuple chilien. Ça se différencie donc de ce qu'on a vu à Cuba. Et l'un de ses principaux objectifs, c'est de nationaliser les industries stratégiques du pays, donc surtout les mines de cuivre, dont on a déjà parlé, qui sont dominées surtout par des entreprises états-uniennes. Parce que le cuivre, ça constitue l'une des principales ressources économiques du Chili. Et sa nationalisation devait permettre au pays de contrôler pleinement ses richesses naturelles. Allende, il va faire d'autres réformes, surtout des réformes agraires qui sont déjà initiées par ses prédécesseurs. Il va ainsi redistribuer des terres, des grandes propriétés aux paysans pour réduire les inégalités rurales et accroître la production agricole. Et ensuite, le gouvernement Allende, il développe un programme ambitieux de réformes sociales, notamment dans l'amélioration des services de santé, l'éducation gratuite et universelle et la réduction de la pauvreté et des inégalités. Il cherche également à promouvoir une meilleure distribution des revenus. Ces réformes sont dans un premier temps couronnées de succès. La nationalisation des mines de cuivre est approuvée par le Congrès à l'unanimité. Les services sociaux sont améliorés et des augmentations de salaires soutiennent la consommation populaire. Ces mesures contribuent à une croissance économique et obtiennent donc un certain soutien populaire.
Moi, j'imagine que ça n'a pas été tout rose non plus, qu'il a dû rencontrer quelques difficultés.
Et effectivement, la forte augmentation des dépenses publiques et des salaires, combinée à une baisse de la production agricole et industrielle, conduit rapidement à des niveaux d'inflation extrêmement élevés. Ainsi, en 1972, l'inflation dépasse les 200%, rendant les produits de base inabordables pour de nombreux Chiliens. De plus, à partir de 1972, le Chili connaît une grave pénurie de biens essentiels qui est causée en partie par la désorganisation de la production, la réticence de certains secteurs de l'économie privée à coopérer avec un gouvernement socialiste et des actions de sabotage carrément menées par des acteurs économiques qui sont opposés à Allende. Enfin, on peut dire que l'administration américaine continue sa campagne économique agressive contre le Chili et vise à rendre l'économie ingouvernable. Les États-Unis imposent ainsi des sanctions économiques, bloquent les crédits internationaux et encouragent les entreprises à ne pas commercer avec le Chili, aggravant ainsi donc la crise économique du pays.
Et donc la crise économique a dû empirer, effectivement.
Et elle va empirer tout à fait, hein, d'autant que le gouvernement Allende y fait face à une opposition croissante des partis de droite et des secteurs de la classe moyenne qui sont inquiets de la direction socialiste du pays. Cette opposition devient de plus en plus virulente au fur et à mesure que la situation économique se dégrade, avec la constitution, par exemple, de milices militaires carrément. En octobre 72, on a aussi le Chili qui est totalement paralysé par une grève des transporteurs routiers qui est soutenue par les secteurs conservateurs et financés par les États-Unis. Cette grève est un coup dur pour l'économie et elle marque le début d'un mouvement plus large de contestation contre le gouvernement d'Allende. Et on va voir que cette opposition, elle va se militariser de plus en plus avec des appels de la droite et des secteurs de l'armée pour mettre fin au gouvernement d'Allende par la force. Donc on a, comme je disais déjà, il y a des petits groupes paramilitaires qui se constituent, comme le Patria y Libertad, qui mène des actions violentes pour déstabiliser le régime. Alors face à la montée des tensions, Allende, il tente quand même de négocier avec les démocrates chrétiens, mais ces tentatives de compromis, elles vont échouer. Et la polarisation politique rend tout dialogue extrêmement difficile. Même au sein de son union populaire, de son unité populaire, les tensions vont apparaître. Les secteurs les plus radicaux de la gauche, ils vont pousser Allende à adopter des mesures plus extrêmes, tandis que les modérés s'inquiètent de cette escalade de violence. Donc finalement, Allende est bousculé sur sa droite et sur sa gauche.
Ok, donc on va en arriver, j'imagine, à ce fameux 11 septembre 73. Et donc la fin tragique d'Allende, qu'est-ce qui s'est passé exactement ce jour-là ?
Alors ce jour-là, ça, on revient un petit peu en arrière pour voir que à partir de 72-73, L'armée chilienne, qui est considérée longtemps comme apolitique, hein, qui ne se mêle pas de politique, elle va commencer à être infiltrée par des éléments hostiles à Allende. Le plus connu, c'est Augusto Pinochet, qui va être nommé à la tête peu de temps avant le coup d'État du 11 septembre et qui va jouer un rôle central dans cette conspiration militaire. Alors, le 11 septembre, qu'est-ce qui se passe? Les forces armées, elles sont dirigées donc par Pinochet et elles lancent un coup d'État contre le gouvernement d'Allende. Les militaires vont bombarder le palais présidentiel, la Moneda, où Allende se trouve. Lui, Allende, refuse de démissionner et de se rendre. Et il va même se suicider dans son palais. Alors après sa mort, il y a une junte militaire qui est dirigée par Pinochet qui va prendre le contrôle du pays et suspendre immédiatement la constitution, dissoudre le congrès et lancer une répression très brutale contre les partisans d'Allende et la gauche en général. Des milliers de personnes vont ainsi être arrêtées, torturées ou exécutées même, et des dizaines de milliers d'autres sont forcés à l'exil. Ce coup d'État du 11 septembre 1973 marque la fin de la démocratie au Chili pour les 17 années suivantes. Mmh. La dictature militaire de Pinochet met en œuvre une politique économique néolibérale radicale avec qui rompt totalement avec les économies ce qu'a fait Allende et en écoutant ici les économistes états-uniens de l'école de Chicago.
Bon. Ok. Bon, est-ce qu'on peut tirer un bilan des 3 années de pouvoir de Allende au Chili?
Alors les réformes sociales et économiques d'Allende, elles étaient très ambitieuses et n'ont pas eu le temps de porter pleinement leurs fruits. La crise économique, les pénuries, l'opposition farouche ont empêché la réalisation de ces objectifs socialistes. Pourtant, pour de nombreux Chiliens, Allende demeure quand même un symbole de lutte pour l'égalité et la justice sociale. Pour ses partisans, donc, il représente l'espoir d'un avenir plus juste et égalitaire, brutalement interrompu par la dictature. Mais pour ses détracteurs, son gouvernement a conduit le Chili au bord du chaos économique et politique, justifiant, selon eux, même l'intervention militaire et le coup d'État.
Ok, merci beaucoup pour ce,
ben de rien,
ce petit cours d'histoire sur Allende, Jean-François. On se dit à tout bientôt.
À bientôt.
Calade. La Méridienne.